Gracianopolis. Yvan Mazel, Rémi Vigneron, l'émission sur la métropole grenobloise,
Radio Campus Grenoble 90.8.
Bonjour à tous, bienvenue dans la 7ème émission de Gracianopolis sur Campus Grenoble 90.8. Vous écoutez l'émission mensuelle d'information et de débat questionnant l'évolution de la métropole grenobloise. Aujourd'hui, dans Gracianopolis, on va tenter de comprendre l'influence d'une ressource propre au territoire grenoblois, le ciment, également connu sous le nom d'or gris. Et on va s'y appliquer en compagnie de Cédric Avenier, un des spécialistes français du ciment. Nous sommes, quant à nous, toujours ensemble avec Yvan pour mener cette émission. Bonjour Yvan.
Bonjour Rémi.
Yvan, commençons tout de suite avec une présentation de ce mois-ci. Où va nous mener la thématique de l'or gris ?
Alors, le ciment à Grenoble. D'aucuns pensent sûrement que le ciment et son dérivé, le béton, sont liés à la modernisation industrielle de la ville. Cela est vrai ici comme ailleurs dans les autres villes françaises. Mais le ciment et son industrie sont intimement liés à l'histoire de Grenoble et de son agglomération. Qui sait par exemple que les pans de rochers où l'on peut escalader en bas de la Bastille sont les vestiges d'une ancienne carrière de calcaire constituant la base du ciment ? Qui sait que les deux gros cylindres surmontés de la lettre V que l'on voit à l'entrée de Grenoble le long de l'autoroute A48 sont les marques ici d'une entreprise internationale du béton créée par le fils de Louis Vica, inventeur du ciment artificiel en 1818 ? Qui sait enfin qu'un petit pont à première vue insignifiant du Jardin des Plantes de Grenoble est le premier ouvrage en béton au monde et qu'il date de 1855. Le ciment a en effet marqué l'histoire de la région par la forte présence de cimenteries dans les vallées du Drac, dans la plaine du Grésivaudan, ainsi qu'en aval de Grenoble, au bord de l'Isère. On verra donc aujourd'hui tous les effets de l'histoire du ciment dans l'agglomération grenobloise, depuis les carrières au bas de la Bastille jusqu'aux cimenteries derrière la gare. Depuis les premiers trottoirs en ciment jusqu'aux canalisations pour transporter l'eau. Depuis les immeubles d'habitation de notre centre-ville en béton imitant la pierre de taille jusqu'aux monuments plus modernes en béton armé. Et enfin, qui sait que la tour du parc Paul Mistral, de 95 mètres de hauteur est la première tour en béton armé d'Europe, construite par l'architecte Auguste Perret, dont son élève ensuite Le Corbusier, symbolisera l'usage du béton en architecture.
Est-ce que vous savez le nom de la tour qui est juste derrière nous là ?
Oh, pas du tout.
Je l'ai su, mais j'ai oublié.
La tour Perret. La tour Perret ?
La tour Perret, oui. Ouais. Vous savez pourquoi elle est là ?
C'était Auguste Perret dans les années 30 qui l'avait construite. Après, je me souviens plus du tout pourquoi est-ce qu'il l'a construite.
C'est pas la première tour faite en béton ?
JO de Grenoble ?
Aucune idée.
Absolument pas.
Pour une exposition, pour promouvoir le béton dans les années dans les années 1960.
C'était pas juste avant un mouvement qui s'appelait comment déjà ? Pas un mouvement, mais c'était le ciment décoratif.
Et est-ce qu'il y a une raison particulière pour votre présence ici, près de la tour ?
Parce qu'on habite juste à côté.
Pour prendre une bière, du coup, au pied de la tour Perret.
Voilà, en même temps, ce parc, c'est un lieu de rencontre.
C'était pour se retrouver plus facilement, tout simplement.
Parce que je suis avec une amie, je ne savais pas où lui donner rendez-vous, donc la tour Paul Mistral, justement, est un bon point de repère.
On a donc le plaisir aujourd'hui de recevoir Cédric Avenier, enseignant-chercheur au laboratoire culture constructive de l'École nationale d'architecture de Grenoble. Vous êtes également connu à Grenoble comme le spécialiste du béton et l'auteur des ouvrages Ciment naturel publiés en 2007 chez Glénat et L'ordre du béton en 2013 par l'association Cratère. Bonjour Cédric et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bien, bonjour à vous et surtout merci de m'avoir invité et pour me proposer de parler du ciment qui est un produit un peu particulier qui commence à avoir de la parole de nouveau.
Donc on va tout de suite commencer par une précision technique, si vous le voulez bien. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la différence entre ciment et béton et nous préciser les différentes familles qui les composent et puis comment se fabrique-t-il ?
Oui, commençons par la base. Pour être clair, le ciment c'est un liant, une colle, et le béton ce sont des granulats et du sable qui ont été collés avec ce ciment. On va peut-être parler un tout petit peu de technique au début, mais ça permettra d'être clair par la suite. Les ciments sont divisés en plusieurs catégories. Je ne vais pas reprendre les nomenclatures actuelles qui sont particulièrement complexes, scientifiques et techniques, mais pour être un petit peu plus clair, pour comprendre cette histoire entre le 19e siècle et le 20e siècle, on divise grosso modo les ciments en ciments naturels et ciments artificiels. Les ciments naturels sont... c'est le produit de la cuisson d'une pierre qui est un mélange de calcaire et d'argile avec un petit peu de silice, bauxite, etc. qui est une pierre qui a naturellement la bonne composition chimique, la bonne proportion pour faire du ciment. Donc on cuit cette pierre à l'état naturel, donc c'est une pierre naturelle qui est cuite pour faire du ciment. Ciment artificiel, c'est le produit de la cuisson d'un mélange de calcaire et d'argile qui a été fait en partie artificiellement, c'est-à-dire qu'il y a des rajouts d'argile ou calcaire pour avoir les bonnes proportions pour faire un ciment qui est de bonne qualité. Puis ensuite, on divise les ciments, donc qu'ils soient artificiels ou naturels, en ciments à prise rapide ou à prise lente. On parle beaucoup à Grenoble de ciment prompt ou ciment naturel prompt. Très souvent, les ciments naturels sont à prise rapide. Donc celui de Grenoble qui est extrêmement connu, connu dans le monde entier hein, depuis plus de 150 ans, on appelle le ciment prompt naturel. Et puis donc les ciments à prise lente ou ciment artificiel, puisque les ciments artificiels sont souvent à prise lente, sont parfois aussi appelés ciment portland, ce qui est un terme assez courant. Et ces ciments permettent donc de lier sable et granulat pour faire du béton. Le béton, il y a donc des bétons de chaux et des bétons de ciment. Et le béton étant un matériau, avec de l'eau évidemment, hein, une pâte qui durcit avec de l'eau, qui fait sa prise avec de l'eau, qui est très résistant à la pression, mais très peu à la flexion et à la traction. Donc on a rajouté au courant du 19e siècle, avec des règles de calcul complexes, des barres métalliques pour compenser ses faiblesses et avoir finalement un matériau qui est à la fois très résistant à la pression et très résistant à la flexion.
C'est toutes ces notions qui nous intéressent. Et donc, on sait que l'activité de taille dans la cuvette grenobloise, quelle est l'importance historique du secteur de la cimenterie à Grenoble et dans les environs, et pourquoi n'existe-t-il aujourd'hui en Isère qu'un seul groupe de cimentiers? Et là, je veux bien sûr parler de Vika.
Alors oui, l'activité est de taille dans la cuvette grenobloise pour plusieurs raisons. D'une part, nous avons des montagnes qui sont riches en calcaire et qui sont historiquement, hein, d'abord, il y a eu beaucoup de chaux dans les siècles précédents, le 19e siècle. Les montagnes ont naturellement les bonnes proportions calcaire-argile pour pouvoir faire du ciment. Ça, on s'en est rendu compte avec la découverte des principes d'hydraulicité au début du 19e siècle par Louis Vika. Donc un scientifique, ingénieur du corps des ponts et chaussées, qui était originaire de Grenoble, qui a fait ses découvertes pas à Grenoble mais à Souillac, mais ensuite est revenu travailler à Grenoble. Donc on a un scientifique qui connaît parfaitement les proportions chimiques pour faire les ciments. On a les montagnes qui fournissent la matière première, et puis on a aussi beaucoup de minéralogistes comme Émile Guémard, et puis de géologues comme Charles Laurie, qui font des explorations des montagnes pour savoir quelles carrières peuvent être utilisées ou pas, puisque les ciments sont le produit de l'amélioration technique des chaux. Et donc, au courant du 19e siècle, il y avait des dizaines de petites cimenteries, moyennes cimenteries, autour de Grenoble, qui faisaient de la chaux, puis du ciment, en allant taper dans les gangues un peu plus riches en argile, sur les conseils, hein, toujours d'Émile Guémard et de Louis Vika. Et pourquoi il n'y en a qu'une aujourd'hui? Parce que très traditionnellement, les petites cimenteries non exploitables ont fermé. Il y a une concentration verticale. Celles qui étaient un peu plus importantes ont réinvesti après la Première Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale. Et puis, elles sont devenues des entreprises internationales, certaines multinationales avec des capitaux un peu complexes, et puis avec des systèmes de rachat, d'aide de banque, certaines ont résisté, d'autres pas. Vika, qui était une petite entreprise ou une moyenne entreprise, disons, au 19e siècle, a beaucoup grandi au début du 20e siècle et a pu racheter les grosses cimenteries dans les années 60. Donc le petit a mangé les gros.
Alors, quelles sont les innovations du secteur au tournant du 20e siècle?
Au tournant du 20e siècle, c'est vraiment le passage du béton au béton armé. C'est-à-dire qu'on commence à maîtriser d'une part la fabrication pas très très chère du métal, hein, des barres d'acier, et on commence à maîtriser les règles de calcul. À force d'expérience et d'empirisme, durant la seconde moitié du 19e siècle, on ajoute des barres de métal au béton pour le renforcer. Et à la fin du 19e siècle, on le maîtrise. Alors, c'est surtout des entreprises nationales comme l'entreprise de François Henbic qui valorise le béton armé. Et donc on réussit à avoir un matériau qui est extrêmement puissant à la pression, qui résiste à la traction et à la flexion. Et les règles de calcul permettent de couvrir des grands espaces ou d'avoir des grandes portées en béton armé, beaucoup plus qu'avec la pierre et pour beaucoup moins cher.
Alors ce béton armé est longtemps ignoré par le secteur de l'architecture en France. Alors qu'outre Rhin, les Allemands se saisissent de la technique et de l'emploi à grande envergure. Alors qu'est-ce qui nous freine à utiliser le béton armé ?
Ce qui nous freine, c'est peut-être que nul n'est prophète en son pays. La France est un pays où les architectes étaient traditionnellement élèves des beaux-arts, apprenaient la construction en pierre de taille et il y avait une séparation entre les écoles d'ingénieurs et les architectes. Donc les architectes qui apprennent à construire en pierre de taille ont beaucoup de mal à passer au béton armé puisque ce n'est plus du tout la même logique de construction, ce ne sont plus les mêmes règles de calcul, ce ne sont pas du tout les mêmes entreprises qui construisent en béton armé et en béton. Donc le béton n'est pas ignoré en France dans la construction industrielle, hein, ni pour les barrages, ni pour les grandes portées, ni pour les bâtiments, les ouvrages techniques, mais il est un petit peu ignoré dans l'architecture. Et les Allemands, au contraire, eux, ont vu dans le béton, dans le béton français d'ailleurs, puisqu'ils ont fait venir des ingénieurs français pour pouvoir construire du béton en Allemagne très rapidement, fin 19e siècle, début 20e siècle. Hein, c'est une Allemagne en pleine construction hein, qui est très active et qui est très active dans le design industriel. Et les architectes comme Perret disaient qu'il fallait vraiment utiliser le béton puisque les Allemands allaient beaucoup plus vite que nous dans la construction.
Alors à ce sujet-là, en 1925, Grenoble donc organise l'exposition universelle de la houille blanche et du tourisme. Quel rôle joue cet événement pour le béton à Grenoble et en France ?
Alors il y a plusieurs rôles. L'exposition internationale de la houille blanche et du tourisme est une exposition donc après la Première Guerre mondiale qui a pour objectif de valoriser l'industrie régionale après la guerre de façon à relancer les importations, exportations, le commerce, de valoriser le tourisme, ce qui était extrêmement important. La première source de revenus de l'Isère et des Alpes, c'était le tourisme. Et puis, donc là, il y a cet effet-là. Et puis, il y a la seconde chose, c'est qu'après-guerre, on est en période de construction ou de reconstruction. Et des villes comme Grenoble sont petites, enserrées dans leurs remparts encore. Elles doivent s'agrandir. Et le maire Paul Mistral l'a bien compris. Si on veut construire de façon plus grande, moins chère, si on veut étendre Grenoble vers le sud de façon moderne, il faut le faire avec du béton armé. Donc, dans les cahiers des charges de l'exposition, on demande à ce que toutes les grandes constructions, soit en béton armé, pour montrer aux Grenoblois ce qu'est le béton armé, puisque Grenoble a une vieille tradition de la pierre factice, des constructions en ciment moulé, et a du mal à passer au béton armé.
Béton armé, soleil en berne, homme de nouvelle caverne, voilà ce que nous devenons. Et pardonnez-moi si j'entrange. J'avais rêvé de grands ensembles. Ensemble est un si joli nom. Du ciment à l'horizontale, du ciment à la verticale, et puis le vacarme têtu. Ces grands ensembles sont si rudes que je rêve de solitude comme d'un paradis perdu. Dieu qui voulait la vie si belle, allez un peu voir à Sarcelles. Sarcelles était un nom d'oiseau. Aujourd'hui, l'oiseau est en cage et moi, je trouve ça dommage si vous le voyez de haut. Béton armé, soleil en berne, homme de nouvelle caverne, voilà ce que nous devenons. Si vous n'y mettez pas bon ordre, bientôt la vie si bonne à mordre ne méritera plus son nom. Ah, faites-moi changer d'adresse et faites que le vent caresse encore une fois mes mains nues. Le vent, le vrai, pas cette grâce qui nous fait le cœur dégueulasse en ramenant les avenues. J'ai besoin d'air, Dieu me pardonne, de celui que le ciel nous donne en passant par l'odeur des crues.
On n'a pas parlé de pierre de taille.
Et si un jour la mort m'empoigne, que ce soit en rase campagne.
On vient d'écouter une chanson des années 60, Béton armé, interprétée par Christine Sèvres.
Alors Alors nous sommes toujours en compagnie de Cédric Avenier et on continue à parler de ciment et de béton. Alors les industries du ciment et du béton ont de nombreux impacts au niveau du territoire. Comment est-ce que l'industrie du ciment participe de l'organisation générale du territoire à Grenoble, Cédric Avenier ?
Eh bien presque comme toutes les industries finalement, puisque une industrie se nourrit de son territoire et puis nourrit le territoire. Alors le ciment est allé beaucoup plus loin que Grenoble. Les ciments grenoblois ont été vendus durant le 19e siècle, jusqu'à la fin du 19e siècle, dans toute l'Afrique du Nord, l'Amérique du Sud, en Italie, etc. Puisque, et donc dans tout le quart sud-est de la France, jusque là, jusqu'où il n'y avait pas de concurrence au niveau du prix. Le ciment est un produit qui n'est pas très cher et qui est impondéreux. Le coût de transport est vite pénalisant. Alors aujourd'hui, il y a des cimenterie un petit peu partout, presque une par département. Donc on ne vend pas le ciment très loin, on ne le transporte pas. Ce n'était pas le cas au 19e siècle. Alors comment elles ont, quel est l'impact au niveau du territoire ? Eh bien, quand il y avait quelques dizaines de cimenteries autour de Grenoble, il y avait évidemment des réseaux routiers qui ont été faits pour les cimenteries, ou plutôt que les cimentiers ont aidé à faire quand il y avait une très bonne carrière à exploiter pour la construction à Grenoble. Les cimentiers, en lien avec les administrations et en lien avec les municipalités, ont par exemple favorisé la construction d'infrastructures. Je pense au pont de Clé, le nouveau pont de Clé à Clé, finalement, pour traverser le Drac, qui est un pont horizontal. Il y a d'autres ponts à Grenoble. Il y a aussi des routes qui ont été aidées. On a aidé aussi pour les chemins de fer. Mais enfin, les cimenteries sont arrivées après la voie ferrée. Elles se greffent sur les réseaux existants et puis elles aident à la construction de réseaux existants. Mais tout n'est pas fait que pour les cimenteries, heureusement.
Alors, on en parlait tout à l'heure. On est en 1925. L'exposition universelle de la houille blanche et du tourisme qui promeut le béton auprès des Grenoblois. Et donc c'est à ce moment que débute l'âge d'or du béton armé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette technique permet de développer la ville de Grenoble ?
Alors, le béton armé est une technique de construction qui est assez nouvelle au début du XXe siècle. Elle remplace grosso modo la construction en pierre de taille et pour Grenoble les constructions en pierre factice, c'est-à-dire qu'on avait un très très bon ciment naturel prompt qui permettait de faire des blocs de pierre faite, des blocs de béton très ornés en pierre factice, qu'on a énormément dans le centre-ville de Grenoble, la partie haussmannienne, surtout dans le quartier Saint-Bruno d'ailleurs, Courberia, et puis dans tout le département, bien sûr. Et au lieu de travailler la construction avec un empilement de pierres factices, pour être simple, on va faire des coffrages avec du béton armé. On va plus vite, plus haut, plus loin, pour moins cher. Donc Grenoble, après la guerre, après 1920, a besoin de construire, par exemple, les premiers logements, ce qu'on appelait les HBM, les premiers logements sociaux. Il est évident que si on devait les construire en pierre de taille ou en pierre factice, ils auraient été plus chers après la guerre. On est quand même exsangue, il y a beaucoup moins d'argent. Donc le béton armé permet de construire ces bâtiments à moindre coût. Alors je dis après la guerre de 14-18, c'est particulièrement le cas, comme on l'a entendu dans la chanson de Christine Sèvres, après la guerre de 45. Le béton, je viens de le dire, il n'est pas cher.
En quelque sorte.
Oui, le béton a cet avantage et cet inconvénient qu'on peut faire des choses absolument extraordinaires et qu'il n'est pas cher. Donc on peut faire du très bon et du très mauvais. Enfin, ce n'est pas du très mauvais dans les années 40. On a pu loger quasiment tout le monde à des prix très corrects. Mais il a des limites, évidemment. On ne peut pas tout faire.
Alors on accélère un peu. On est maintenant au 21e siècle. Le béton est un matériau que nous utilisons maintenant depuis plus d'un siècle. Quels sont les enjeux de conservation, de pérennisation, voire même de valorisation patrimoniale ? Nous sommes en effet à Grenoble face à un important patrimoine bâti en béton et je vous propose, pour illustrer cette dernière partie, de découvrir comment les Grenoblois perçoivent la tour Perret. Comment est-ce que vous la décririez ?
Phallique. Voilà.
Bon, un peu vieille maintenant, donc ouais, un petit peu de retapage serait bien, mais magnifique, magnifique.
Brut de décoffrage, béton pur, béton armé.
Malheureusement triste par la couleur, par l'entretien.
Oula, très grande et abîmée.
En détérioration.
Mais elle est jolie quand même, c'est dommage.
Décrépite, vieille, grise, pas esthétique.
Pas du tout en rapport avec le parc lui-même. C'est un parc vert, ça fait plaisir de s'y balader, et puis boum, béton.
J'ai pensé un peu à de l'architecture russe, tu sais, banlieue de Moscou, communiste, un peu abîmée, je suis d'accord.
Alors on enchaîne tout de suite avec une interview de Sylvie Amstelem, chef du service réhabilitation du patrimoine urbain à la mairie de Grenoble, au sujet du projet de restauration de la tour Perret.
Quelle serait donc l'utilisation idéale que préfigure la ville de Grenoble pour
L'utilisation idéale, ça sera de rendre la tour aux Grenoblois, c'est-à-dire que c'était une tour quand même pour voir les montagnes. Donc cette tour-là, on va essayer de lui rendre son usage. C'est vraiment un monument exceptionnel. Je dirais, il n'aura pas d'autres usages. Par contre, il a une présence sur le territoire qui est très marquante. C'est quand même un emblème de la ville. Donc cet emblème, il faut le garder, il faut le mettre en valeur. Il faut apprendre aux Grenoblois à le comprendre et à l'apprécier.
Techniquement, est-ce qu'il y a des points saillants sur la restauration ?
Alors, on va essayer les difficultés de restaurer des bétons, comme ça, surtout les premiers bétons, c'est de savoir un petit peu quelle orientation va prendre. Alors, techniquement, on peut, ce qui a déjà été fait d'ailleurs, il y a déjà eu une restauration dans les années 50, hein, donc peu de temps après sa construction. On s'est contenté de venir mettre du ciment pour recouvrir les fers qui sont donc à fleurs. On voit que cette restauration n'a pas duré, puisque ces bétons-là, ces bétons de ragréage sont en train de s'effriter. C'est ce qui tombe en ce moment. Le problème dans la restauration de monuments historiques, c'est de savoir, est-ce qu'on fait une restauration qui se voit ? Donc après, on fait exactement les mêmes bétons et on ne verra pas qu'on a restauré. Ou alors, on fait des bétons, aujourd'hui on saurait, je pense, faire des bétons adaptés, plus fins, enfin qui seraient adaptés et qui seraient pérennes. Donc une restauration pérenne, par contre, ce seraient des restaurations qui seraient visibles. Donc ça, c'est le gros, on va dire, la grosse préoccupation des restaurateurs.
Suite à ces deux extraits sonores, il y a concrètement un enjeu du côté de la restauration du béton à Grenoble. Alors, Cédric Avenier, quelles sont les options et laquelle faut-il privilégier selon vous ?
Alors, pour moi, et puis surtout moi en tant que chercheur au laboratoire culture constructive, il n'y a pas 50 options. Sylvie Amstelem, d'ailleurs, elle a assez bien dit, la tour ne peut pas avoir 50 usages. C'est peut-être d'ailleurs grâce à ça qu'elle est encore sur le parc. Elle fait 54 mètres carrés au sol et c'est un escalier qui monte à 80 mètres. Donc on ne va pas en faire ni une salle des fêtes, ni une salle de concert. C'est un bâtiment pour voir les montagnes. C'est un bâtiment qui est, quand on le regarde avec un œil de spécialiste, mais je l'ai entendu dans les interviews, avec un œil amateur, hein, elle est magnifique de l'extérieur. Elle est encore mieux de l'intérieur quand on y monte, hein, surtout en escalier. Donc en soi, l'option, c'est simplement redonner l'accès, j'allais dire, aux Grenoblois, mais surtout à tous les visiteurs qui peuvent la visiter. Et l'expérience de la gravir, ascenseur ou escalier, est déjà fabuleuse en soi. Ensuite, dans le projet de restauration, c'est le chantier pilote. Par excellence, la problématique de restauration des bétons armés du XXe siècle se pose sérieusement, mais à l'échelle internationale, mondiale, puisque vous l'avez dit, les bâtiments en béton commencent à avoir 50, 100 ans aujourd'hui. Il y a des restaurations à faire. La tour de Grenoble a toutes les pathologies, puisqu'elle fait 95 mètres de haut. Donc les bétons ont les pathologies depuis le rez-de-chaussée jusqu'aux étages supérieurs. Elle est seule au milieu d'un parc, elle est inhabitée, elle est visible. Donc on a toutes les capacités pour en faire un chantier pilote qui, contrairement à un bâtiment habité, hein, serait beaucoup plus facile. Et puis, c'est quand même un des grands manifestes d'architecture du béton armé qui est très d'Auguste Perret en plus et pour lequel nous avons beaucoup d'archives, ce qui nous permet de comprendre comment la Terre est construite, pourquoi. Et donc, les archives, la connaissance de cette histoire et de ces matériaux permettent de nourrir aussi les recherches scientifiques pour la restauration. Donc, pour moi, je vote chantier pilote.
Donc on a à Grenoble différents monuments comme ça en béton. Je pense également à la Casa Mort. Comment est-ce qu'on allie les techniques d'antan et d'aujourd'hui, Cédric Avenier, pour restaurer ces bâtiments ? Mais surtout, à plus large échelle, dans le cas de Grenoble, comment est-ce qu'on valorise un patrimoine local qui est si important ? Et là, je pense bien sûr à tous les édifices construits au XXe siècle sur le territoire grenoblois.
Eh bien, comment on allie les techniques d'antan et celles d'aujourd'hui ? Simplement, on ne peut plus fabriquer des matériaux aujourd'hui comme on le faisait au 19e siècle, par exemple, ou au début du 20e siècle, puisque il n'y a pas le marché pour les fabriquer. C'est un coût de fabrication important. Donc on fabrique des matériaux spécifiques pour la restauration, d'autant plus que les bâtiments qu'on restaure ont eux-mêmes des bétons qui ont vécu. Le béton, par exemple, de la tour Perret aujourd'hui n'est pas celui de 1920. Il a 90 ans, ce béton. L'armature métallique aussi. Donc aujourd'hui, on a des grosses capacités scientifiques pour pouvoir étudier scientifiquement comment ont été fabriqués ces bétons et comment ils ont vieilli. Alors les bétons et le métal, pour le cas du béton armé, c'est vraiment complexe, y compris en termes de parasismicité, donc les structures vieillissantes. Mais donc on fabrique effectivement des produits adaptés au niveau des pathologies du ciment, de l'élasticité des bétons et du métal. Et puis les techniques d'antan, c'est que le savoir-faire, finalement, restera toujours un savoir-faire artisanal. C'est le scientifique qui produit le matériau, mais c'est l'artisan, l'ouvrier qui va le mettre en place. Et ça, il faut vraiment avoir l'œil et la main pour pouvoir restaurer correctement. Vous m'avez parlé de la case à mort tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des bétons fibrés avec des fibres, soit fibres métalliques, soit des fibres polyuréthane, pour fabriquer les bétons et ne plus avoir les problèmes de la rouille des petites armatures métalliques. Mais le savoir-faire, c'est clairement un savoir-faire artisanal pour fabriquer les ciments moulés de la case à mort, oui.
Alors, il y a aussi le Palais des Sports, qui est un de ces monuments en béton. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Le Palais des Sports, alors, on parle souvent effectivement, à Grenoble, de grands bâtiments en béton armé, ville représentative de l'architecture cimentière. La Case à Mort, c'est vraiment l'édifice du 19e siècle par excellence du ciment moulé. La Tour Perret, c'est le manifeste du béton armé pour le 20e siècle, hein, une tour qui s'élance. Et le Palais des Sports, c'est la seconde moitié du 20e siècle, c'est le grand voile de béton de plusieurs dizaines de mètres de portée, fait pour lui, pour l'occasion, pour les Jeux Olympiques. Qui est un immense oiseau, de béton qui sortait de l'herbe, qui, à mon sens, a été un petit peu massacré avec le parvis qui a été rajouté, l'équerron qui a été fermé avec la végétation. Pour ma part, j'habite à côté depuis plus d'une vingtaine d'années. Je n'ai jamais vu un tag sur ce bâtiment quand il n'était pas fermé. Je n'ai pas compris pourquoi on le fermait en fait, au public. J'ai toujours vu des gens qui venaient pique-niquer à côté et puis qui appréciaient cette aile de béton qui sortait. Puis là, il est enfermé. Voilà, donc Nicolas Esquillon, Zerfus, hein, les auteurs du bâtiment. C'est un des très très grands et rares bâtiments en voile de béton des années 60. C'est une prouesse absolument phénoménale pour le 20e siècle aussi.
Alors, comme à notre habitude, on passe maintenant à une dernière question qu'on pose à chacun de nos invités ici dans les studios de Radio Campus. Qu'est-ce que pour vous, Cédric Avenier, la métropole grenobloise ?
Oui, question piège que j'ai déjà entendue. Je n'en sais strictement rien, la question grenobloise. La métropole grenobloise, c'est peut-être une nébuleuse en cours de formation. C'est un conglomérat de plusieurs communes, municipalités qui étaient différentes, indépendantes, et puis qui ont grandi et qui finalement maintenant marchent épaule contre épaule et elles commencent à se donner la main. C'est peut-être ça qui est intéressant. Hein. La vallée a besoin que les gens se donnent la main pour aller dans le même sens.
Ce 7e numéro de Gracianopolis touche maintenant à sa fin. On souhaite remercier toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de cette émission consacrée au ciment et à son patrimoine. Merci à vous, Cédric Avenier, d'avoir accepté notre invitation pour enregistrer l'émission dans les studios de Radio Campus.
Merci à vous.
Merci également à Christiane Guichard et Sylvie Amselem pour les entretiens et les visites qu'elles nous ont accordées. Avant de vous quitter, je vous informe que vous pouvez retrouver sur notre audioblog un document spécial de 30 minutes retraçant la visite de la Case à Mort en compagnie de Christiane Guichard et que nous n'avons pas eu le temps de passer aujourd'hui à l'antenne. Yvan, nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Gracianopolis. En attendant, vous pouvez nous retrouver, comme à votre habitude maintenant, sur notre audioblog mixcloud.com/gracianopolis et sur Facebook. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Campus Grenoble 90.8.